France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Nathalie Stutzmann. Je suis chanteuse et chef d'orchestre.
Nathalie Stutzmann, vous nous avez parlé de votre enfance, de vos études au conservatoire. Tout va très vite.
Dès que je suis arrivé à Paris, à l'école de l'opéra, j'étais avec les autres. J'étais la plus jeune, mais il y avait une ambiance extraordinaire. Je retrouvais un petit peu ce que j'avais connu dans l'enfance avec les troupes que j'avais connues en observant mes parents. J'étais avec Michel Sénéchal à l'école de l'opéra, qui était adorable et qui lui aussi me protégeait beaucoup, parce que j'ai tout de suite été prise par un agent, on m'a tout de suite proposé des concerts, parce que j'ai une voix rare, donc il n'y a pas d'alto, donc tout de suite, toc, 18 ans, concert, salle Pleyel, voilà. Donc je trouvais ça absolument magique. Enfin, à l'époque, j'habitais un appartement où il n'y avait pas de chauffage ni d'eau chaude, je me souviens, mon premier concert à Pleyel, je faisais chauffer de l'eau dans une casserole de camping pour pouvoir me laver les cheveux avec de l'eau chaude. Je me suis retrouvé salle Pleyel, enfin, chanter le Magnificat de Bach, enfin, c'était complètement fou.
Et Michel Sénéchal, c'était quel genre de professeur ?
Mais Michel, c'était quelqu'un qui était aussi très, très raisonnable, qui faisait attention, qui bichonnait les gens qu'il aimait, en qui il croyait, qui référait toujours à ma mère, parce qu'il avait beaucoup d'admiration pour elle, ils avaient beaucoup chanté ensemble, ils se connaissaient bien, ils se parlaient, ils savaient qu'elle était toujours un peu derrière. Mais sans être une femme totalement envahissante, voilà, je n'habitais plus avec mes parents, enfin, je n'avais pas ce rapport malsain qu'on peut imaginer entre une mère trop possessive et son enfant. Et ça s'est très bien passé avec lui. Et puis j'ai eu la chance dans cette école de rencontrer Hans Sauter, qui a été aussi mon grand maître pour le répertoire germanique.
Wer du so lustig rauschtest, du heller wilder Fluss, wie still bist du geworden, gibst keinen Scheidegruß. Mit harter Starr
Quel a été le regard, par exemple, de Hans Sauter ? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez chanté, qu'il vous a écouté ? Qu'est-ce que vous aviez chanté ? Est-ce que vous en souvenez de ça ?
Non. Je me souviens de sa réaction. Je me souviens de beaucoup de nos discussions. Et c'est un des premiers qui m'a fait travailler, notamment le Winterreise de Schubert, qui est vraiment l'œuvre phare maintenant de mon répertoire. Et c'est le premier qui m'a dit « Tu chanteras tous ces grands cycles un jour. » Je lui dis, mais quand? Il m'a dit, mais faut attendre un peu, tu sais, les voix graves, ça met du temps, tu vois. Moi, j'ai chanté Wotan à tel âge et tel âge. Toi, tu seras vraiment dans la pleine possession de tes moyens à 40 ans. Je lui dis, quoi? J'ai 18 ans, je vais pas attendre 40 ans, c'est épouvantable. Il m'a dit, non, mais tu vas te débrouiller d'ici là, mais tu verras, tu repenseras à moi. Et il avait raison. Et quand j'ai eu 40 ans, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Donc c'est vraiment une maturation extrêmement lente. Bien sûr, j'ai pu commencer très jeune parce que j'étais prête musicalement, parce que sur le plan d'interprétation, j'avais déjà une maturité qui était peut-être très en avance sur certains autres chanteurs. Mais vocalement, c'est vrai que la voix d'alto, c'est comme un vin de Bordeaux qui est meilleur 20 ans après.
Sempre, 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 semp
C'est-à-dire qu'on attend 20 ans pour la déployer dans des rôles plus importants, mais dans l'entre-là...
Bien là, on a besoin justement d'être protégé et d'être surtout extrêmement vigilant sur le choix du répertoire. Et ça, j'ai vraiment appris à dire non. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas. Mais c'est ce qui m'a sauvé, qui m'a protégé, qui fait que je suis toujours avec une voix très fraîche. J'ai dit non à plein de propositions qui étaient... C'était trop tôt, voilà. La difficulté, c'était aussi, venait de mon... de mon goût totalement éclectique pour le répertoire. Je l'ai toujours eu, et vous savez, les gens adorent nous mettre dans des boîtes, et si je m'étais concentré uniquement sur un type de répertoire, notamment le répertoire baroque, j'aurais eu les 10 premières années de carrière beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides, en fait.
Quand même, vous êtes très jeune quand on vous demande de remplacer Jesse Norman, et que Erato vous dit à la sortie du concert: mademoiselle, vous m'intéressez beaucoup.
C'est vrai.
Donc c'est quand même assez rapide, je veux dire.
Plus vite, je veux dire, peut-être de manière plus explosive sur le plan international et très rapidement, alors qu'une voix de contralto, c'est lent. Mais
vous pouvez peut-être raconter aux auditeurs de France Musique ce moment-là. Quel quel âge vous avez à quel vertige ça vous donne?
Ouais, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans, je vis toujours dans cet appartement
sans eau chaude.
Et un soir, je reçois un appel d'un monsieur qui organisait des concerts privés dans un atelier de peintre à Paris, qui s'appelait Marx Maja, qui était un type extraordinaire qui faisait beaucoup pour les arts, et qui avait un concert prévu pour le week-end avec Jesse Norman, qui était à Paris pour chanter Didon aîné, je crois, avec Yuri Bashmet, qui devait chanter les deux chants pour contralto et alto et piano. Et Jesse annule, et il cherche une véritable voix d'alto pour remplacer Jesse. Et il avait entendu parler par quelqu'un qui était venu à une audition de l'opéra, qui avait une jeune contralto qui commençait à faire parler d'elle, etc. etc. Et donc, ça devait être le mardi, on me dit, voilà, c'est vendredi soir, vous les connaissez? Je dis, oui, bien sûr, aucun problème, je viens. Je connaissais même pas les mélodies, évidemment. Donc, j'ai filé au magasin de musique, acheter la partition. J'ai fait un petit aller-retour à Nancy, quand même, pour aller voir ma petite mère travailler ça correctement. Et je me suis retrouvé le vendredi soir avec Yuri Bashmet. Mais ça, c'est un sacré altiste, quand même. Je me suis dit, c'est chouette. Et voilà, et j'ai chanté ça. Et il y avait 150 personnes dans l'atelier. Et au milieu de ces 150 personnes, il y avait beaucoup de gens importants, dont Antoine Garcin, qui était à l'époque directeur d'Erato. Et qui, à la sortie, m'a proposé d'enregistrer la même œuvre de Brahms, tout de suite, voilà, comme ça. Et j'ai signé mon premier contrat de disque.
Pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
C'est une forme d'audace aussi.
Ah oui, je suis très audacieuse. Je dis oui d'abord, je réfléchis après.
Thank you.
J'aimerais bien que vous nous parliez davantage du travail que vous avez fait avec Hans Sauter, parce que ça a quand même représenté beaucoup, et c'était pas comme ça une masterclass de temps en temps.
C'était... Non, c'est très, très régulier, et on allait même dîner ensemble, je crois que on a passé des soirées formidables, j'ai appris beaucoup de choses, mais dans un... C'était un homme extrêmement simple, à la fois impressionnant, avec sa stature, 1m90, il était déjà âgé, mais il avait toujours cette voix extraordinaire, qui faisait trembler les chaises le matin à l'école de l'opéra, quand il nous montrait un son ou deux. C'était un homme qui avait bien compris que quand on est jeune, on en fait toujours trop, et qu'on est obligé, c'est un passage obligé, et qui nous aidait à revenir à l'essentiel. C'est vraiment... Son grand dada, c'était de retrouver le naturel. Et finalement, chanter, c'est naturel. Même si la voix classique nous oblige à un travail qui peut sembler surnaturel, on respire bien, on ouvre la bouche et on chante. Voilà. Et ça a l'air idiot comme ça, mais quand on est jeune, on cherche trop, on bricole, on a peur de... on a des périodes de doute, on progresse, puis après on stagne. Et c'est tout à fait normal. Mais il m'a beaucoup aidé sur ce plan-là aussi. Et puis sur le travail, sur le texte, sur la beauté de la diction, de la poésie allemande, sur
Vous
sa profondeur.
L'allemand ?
Alors j'avais... une des conditions pour lesquelles j'avais eu le droit de quitter l'école un peu prématurément, posée par mes parents, c'était d'approfondir les langues. Donc j'avais des cours d'anglais, d'italien et d'allemand. Et donc j'avais, malgré mes origines allemandes, nous ne parlions pas allemand dans ma famille. Pour les raisons de guerre et de grand-père qui avait déserté l'armée allemande pour rejoindre l'armée française étant tombé amoureux d'une française, etc., etc. Donc on ne parlait pas allemand et j'ai dû apprendre au Goethe-Institut, mais j'avais des facilités, voilà, et un accent quasi parfait. Je pense qu'il y a de la génétique quand même qui m'a bien aidé. Et je suis très très heureuse d'avoir fait ces études parce que je les ai faites sans savoir à quel point elles seraient utiles. Et voilà, et ce répertoire, ça a été une découverte extraordinaire. Et je n'ai cessé de l'aimer.
Es flüstern und rauschen die Wogen, wohl über ihr stilles Haus. Es ruft eine Stimme, Gedanke mein, bei stiller Nacht im Vollmond schon.
Ces poésies nous parlent de l'être humain, ces poésies nous parlent de la vie, de l'amour, de tout ce qui fait la beauté et la difficulté d'être un humain, et la solitude, la nature, les chagrins, les peines, la mort. Le romantisme allemand et plonge directement dans... Et c'est pour ça qu'il reste si actuel d'ailleurs. Tout ce qui est... qui parle vraiment, je trouve, justement après l'adolescence, où on a quand même tous ces tourments qui ne sont pas qu'hormonaux, mais qui sont aussi les tourments de l'âme, et qui font qu'on peut se plonger avec une dévotion totale dans cet univers. En tout cas, moi, je l'ai fait.
Thank you.
entretien de Nathalie Stutzmann, France Musique.
Quand on est chanteur, c'est un moment important de l'apprentissage. On va toujours répéter une phrase qui est très juste, c'est que si je me fais pleurer moi-même, je ne ferai pleurer personne dans la salle. Et donc, on doit apprendre à mettre cette... Je ne peux pas dire distance, parce que ce n'est pas une distance. Mais on doit, absolument privilégier le fait qu'on est un vecteur. On est là pour transmettre. Donc, y a un côté généreux qui est très important. Finalement, on est là pour rendre les gens heureux. On est là pour leur provoquer ces émotions. On est là pour qu'eux aillent chercher au fond d'eux-mêmes. Au moment de l'exécution, c'est eux qui doivent recevoir ça et c'est pas nous. Donc il y a ces moments où il peut arriver qu'un artiste plonge, en tout cas dans mon cas, ce sont dans les moments de travail, de préparation. Et sur scène, bien sûr, j'ai vécu des moments où j'avais peur. On est sur borderline, comme on dit, non ? Mais ça, on apprend à le maîtriser. Mais en fait, ce qu'on cherche, qu'on recherche toujours, c'est la dimension qui n'est pas terrestre. Et en fait, c'est au-delà de la première émotion de base, celle qui va vous faire pleurer, celle qui va vous faire plonger, je pense que ce qui est le plus addictif, c'est ce qui est transcendant. C'est l'aspect transcendantal, c'est-à-dire ce moment pendant les concerts où on ne sait plus dans quelle dimension on est. On s'oublie complètement. C'est là, en général, que les gens sont extrêmement touchés. Et on vit pour ces quelques secondes-là. Et ces secondes-là, qui sont en suspension, qui sont on ne sait pas où, eh bien, c'est la drogue. Je me souviens d'une interview extraordinaire de Janet Baker. Et justement, le journaliste lui demandait de décrire ce qu'elle avait ressenti en écoutant Ferrier. Et elle a eu cette image extraordinaire. Elle a dit, ben, vous voyez, dans les musiciens, vous avez une pyramide. Vous avez la pyramide, alors plus vous montez, moins il y en a qui sont exceptionnels, qui sont extraordinaires. Et quand vous êtes en haut de la pyramide, il y a encore une petite porte. Vous poussez cette porte, et bien Ferrier, elle poussait cette porte-là. Et je trouve la description, l'image est belle, parce que c'est ça, en fait, et c'est ce qu'on cherche. Pourquoi travailler autant? Pourquoi? Pour trouver cette petite porte. Alors, on ne la trouve pas toujours, tout le monde ne la trouve pas, mais je pense que c'est le rêve de tout interprète.
Et la partie comédie, j'allais dire, de jouer sur scène, ça, c'est pas quelque chose qui vous manque ?
Non, mais j'adore ça. J'adore, mais jouer ces rôles-là, on va dire la nounou, la nini. Vous voyez, chanter Geneviève quand on a rêvé de Carmen,
c'est différent. C'est
j'ai beaucoup de respect pour la lettre de Geneviève, mais c'est quand même moins excitant. Moi, j'avais envie de jouer Juliette, quoi. Chérubin, Rosenkavalier, le componiste, Carmen, le trouvère. Vous comprenez donc.
Après,
c'est,
avec tous les rôles de travesti, il y a encore quelque chose.
Voilà, chez Handel, voilà. Là, c'était intéressant. En même temps, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait mon dernier disque Handel sur les héros de l'ombre. Les héros endeliens comme personnages à jouer, c'est pas franchement extraordinairement complexe. Parce qu'un héros, c'est assez simple. Un héros, ça gagne toujours. Un héros qui est amoureux, il finit toujours par avoir la femme qu'il a visée. Le héros, il est parfait, il gagne toujours. Finalement, ce sont les personnages secondaires qui sont beaucoup plus complexes, torturés, qui sont beaucoup plus intéressants sur le plan du jeu d'acteur. Moi, j'avais quasiment que des rôles travestis, donc voilà, c'est du basique quand même. Hein. J'adore, hein, c'est... Et puis c'est génial à chanter, j'adore chanter Handel. Mais c'est vrai que musicalement, je me serais rapidement ennuyé si je devais être comme certains contre-ténors aujourd'hui qui ne chantent que ça. Ça m'ennuierait. Musicalement parlant, ce n'est pas assez riche.
Compris que ce que vous aimez justement c'est de ne pas avoir de frontières.
C'est ça.
Et dans cette idée de ne pas avoir de frontières, eh bien, vous épousez la scène depuis la fosse jusqu'au plateau. Est-ce que toutes ces années de vous chanteuse, ce que vous êtes toujours, vous avez porté une attention particulière à celui qui avait la baguette?
Oui, n'importe quel jeune chef d'orchestre rêverait d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce que avoir été assise la plupart du temps à un mètre des plus grands chefs de la planète pendant des heures et des heures et des heures, les voir faire travail d'orchestre, les voir diriger, les sentir l'énergie, le travail du chef. Vous voyez, on voit toujours en répétition, on voit les jeunes chefs qui demandent des permissions pour assister avec leur partition, venir écouter comment fait le chef. Et moi, j'ai eu la chance extraordinaire de vivre ça pendant des années et des années. Donc j'ai ingurgité un nombre d'expériences, d'informations, de diversité dans les interprétations qui est, je pense, vraiment unique. Je commence à me poser la question, c'est par exemple quand je chante la troisième de Mahler que j'adore chanter, mais où en fait dans la troisième, l'alto chante le quatrième et le cinquième mouvement, et puis il y a le sixième mouvement qui arrive, qui est une des plus belles choses qui existent, c'est le mouvement où il nous dit quand on parle de l'amour, et donc il y a 30 minutes d'orchestre, et je me rends compte que finalement c'est presque le meilleur moment pour moi, c'est-à-dire quand j'ai fini de chanter, je m'assieds et je suis assise à côté du chef, au milieu de l'orchestre, je prends tout. Parce que ça, c'est une chose difficile à décrire, mais vous pouvez être assise au premier rang dans le public, c'est pas la même chose. Vous ne recevez pas, et pourtant vous êtes à 1 mètre, 1,50 m de moi, mais vous ne recevez pas ce que je reçois. Donc je reçois toute l'énergie du chef, et en même temps, je reçois toute l'énergie de l'orchestre. Je me souviens de sentir le vent sur mes épaules, dans ma robe décolletée, du vent que les archers des cordes provoquaient. Et là, je suis au paradis. Je me dis, mais ça doit être quand même génial. Quand je commence à attendre plus ce moment-là que le moment de chanter, je commence à me poser des questions.
Extrait du sixième mouvement de la troisième symphonie de Mahler pour refermer cet épisode des grands entretiens avec Nathalie Stutzmann. Réalisation Marie Gros, prise de son Marc Garvenez, attaché de production Solal Mazran, mixage Stéphane Desmonts. Rendez-vous demain à 13h pour la suite et quand vous voulez sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.